Europe 1, il est midi.
Europe 1 midi. Romain Desarbres.
Bonjour à tous et bienvenue dans Europe 1 Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Des jeunes plus mobilisés, des violences peut-être dès 5h du matin. Demain, une cinquantaine de villes ciblées par des militants d'ultra-gauche. Voilà ce que prévoit le ministère de l'Intérieur demain pour la nouvelle journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites. C'est une information Europe 1 que nous vous révélons et que va nous détailler William Molinier dès le début d'Europe 1. Midi. On sera également avec Alain Boer à partir de midi 20, professeur de criminologie et auteur du livre « Au commencement était la guerre » qui sort aujourd'hui. Et on sera également avec vous au 39-21. Redoutez-vous de nouvelles violences, vous appelez, vous témoignez. Elisabeth Borne, reçue par Emmanuel Macron en ce moment à l'Élysée. Quelle sortie de crise trouver ? Jacques Serret sera avec nous, la première ministre qui semble tendre la main aux syndicats, comme on dit. Que lui répond le secrétaire général de Force Ouvrière, Frédéric Souillot ? Réponse à 12h45, il sera en direct avec nous dans Europe 1 Midi. Pas de gros problème d'approvisionnement des stations-service en essence au niveau national, mais des pénuries et des tensions locales. On ira à Marseille retrouver Stéphane Burgat. La tendance météo également avec vous Anissa Haddadi avec une journée plus lumineuse.
Oui, c'est vrai qu'après le week-end agité, nous avons un petit peu plus d'éclaircies aujourd'hui et surtout cet après-midi. Ça va se dégager entre les Pyrénées et les Alpes où ce matin le ciel était très gris. Ça souffle encore pas mal hein, dans le sud de la France. Les températures, elles sont presque de saison avec 8 à 21 degrés cet après-midi.
Anissa Haddadi, merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète.
Europe 1 midi.
Les opposants à la réforme des retraites se retrouvent demain dans la rue, 10e journée de mobilisation intersyndicale, la dernière journée de manifestation, c'était jeudi dernier. Et des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont eu lieu dans plusieurs grandes villes. Des violences encore plus graves observées ce week-end à Sainte-Soline. William Molinier avec nous. Bonjour William.
Bonjour Romain.
Service police-justice d'Europe 1, bien sûr. Selon les informations d'Europe 1, entre 650 000 et 900 000 personnes devraient défiler demain. Et les autorités s'attendent à de nouveaux débordements dans ce contexte social explosif.
Ouais, nouvelle journée à haut risque pour la place Beauvau. Dans une note qu'Europe 1 s'est procurée, le renseignement territorial alerte ce matin sur la mobilisation de la jeunesse. Les jeunes sont entrés dans le mouvement jeudi dernier. Ils étaient au nombre de 30 000, mais leur participation pourrait doubler demain, voire tripler. Surtout, les policiers redoutent la radicalisation de certains adhérents des organisations syndicales tentés de rejoindre des mouvements citoyens ou des groupuscules violents. Demain, les blocages, les actions coup de poing devant les établissements scolaires ou sur les grands axes routiers devraient commencer dès 5h du matin. En soirée, des incidents graves sont anticipés dans une cinquantaine de villes, notamment là où l'ultra-gauche est particulièrement bien implanté. Au total, des manifestations vont se tenir dans plus de 200 villes. À Paris, le cortège partira de la place de la République jusqu'à Bastille. Entre 70 000 et 100 000 personnes attendues dans la capitale. Les réunions se multiplient aujourd'hui à la préfecture de police. Le dispositif sera ajusté jusqu'à tard dans la nuit. Dispositif qualifié de costaud et très solide selon une source policière avec plus de 5000 forces de l'ordre déployées aux abords du cortège.
Merci beaucoup William Molinier, spécialiste des questions de police et de justice à la rédaction d'Europe 1. Nouvelle réunion au sommet en pleine tempête politique et sociale. Elisabeth Borne est reçue à l'Élysée en cette mi-journée. D'abord en tête à tête avec le président de la République Emmanuel Macron avant l'arrivée des cadres de la majorité et de quelques ministres. Jacques Serret en direct du palais présidentiel. Bonjour Jacques.
Bonjour.
La volonté de l'exécutif, Jacques, c'est de prouver qu'à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites et après un week-end marqué par les violences de Sainte-Soline, l'immobilisme n'est pas à l'ordre du jour, c'est ça ?
Oui, une réunion aux allures de cellule de crise, une manière pour Emmanuel Macron de se mettre en scène, de montrer qu'il a encore la main. Preuve en est exceptionnellement. La cour de l'Élysée va être ouverte à la presse tout à l'heure, alors que ce n'était absolument pas le cas lors des réunions du même type la semaine dernière. Le chef de l'État sait qu'il cristallise les colères, qu'Elisabeth Borne ne le protège plus. Il revient donc en première ligne dès ce début de semaine, à défaut d'accueillir Charles III. Objectif de ses échanges avec la Première ministre, trouver une issue à la crise politique. Le président consulte écoutent, sondent les uns et les autres sur la nouvelle méthode qu'ils souhaitent mettre en place avec moins de lois votées au Parlement et plus de décrets approuvés directement au château. Quant à Elisabeth Borne, elle doit lui présenter la feuille de route des consultations qu'elle entend mener. Elle a prévu de recevoir dans le courant de la semaine prochaine l'ensemble des groupes parlementaires ainsi que les représentants des partis politiques, y compris d'opposition, car Elisabeth Borne cherche à tout prix à élargir la majorité présidentielle sur ordre d'Emmanuel Macron pour tenter d'apaiser la contestation et d'essayer d'esquisser un début de solution. La Première ministre a d'ores et déjà expliqué qu'elle ne souhaitait plus recourir au 49-3 en dehors des textes financiers. Ce sont surtout les Républicains et Éric Ciotti qui sont visés, précise un proche du président. Mais la mission semble quasi impossible. Elisabeth Borne, sous pression, joue son poste.
Jacques Serey, en direct de l'Élysée. Merci beaucoup, Jacques. La Première ministre qui a accordé un entretien à l'agence France Presse hier soir, elle a, semble-t-il, tendu la main aux organisations syndicales en proposant de les recevoir à Matignon la semaine du 10 avril. Elisabeth Borne, qui assure vouloir mettre de l'apaisement, c'est ce qu'elle dit, mais qui refuse toujours de bouger au sujet des retraites. Pour le patron de la CFDT, Laurent Berger, impossible de renouer le dialogue sans remettre sur la table la question des 64 ans. Il l'a dit ce matin sur France 2. Écoutez.
Il faut un bouger du gouvernement très fort sur la question des retraites. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils disent les 64 ans ne s'appliqueront pas et on rediscute des retraites et du travail. Je pense qu'on est, dans un moment de crispation totale avec un ressentiment très profond, une colère qui monte et qu'il faut mieux faire redescendre la température que d'attiser les choses.
La main tendue par Elisabeth Borne qui dit l'apaisement, qui dit le dialogue.
Elle est où la main tendue sur la question des retraites? C'est le sujet actuel, c'est le sujet dont on parle. Pour parler du travail, on a toujours été là. C'est d'ailleurs assez symptomatique qu'on veuille parler de seniors, de fin de carrière, d'usure au travail. Ça devrait être le sujet des retraites. Donc,
c'est lié, tout ça.
La main tendue, c'est rediscutons et du travail et des retraites. On va discuter.
Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, interrogé ce matin sur France 2. Alors que la situation politique sur le dossier des retraites reste très inflammable, les mouvements de grève se poursuivent un peu partout dans le pays. Depuis ce matin, la CGT Culture bloque l'entrée du musée du Louvre à Paris. Ses portes pourraient rester fermées toute la journée. Toujours dans la capitale, le débrayage des éboueurs municipaux se poursuit. Plus de 7000 tonnes de déchets sont entassées dans les rues. De plus, plusieurs incinérateurs de déchets de la région parisienne sont bloqués. Dans les raffineries maintenant. Malgré les réquisitions décidées ces derniers jours, l'approvisionnement en carburant reste perturbé dans plusieurs départements. Une station sur cinq manque d'au moins un produit au niveau national. À Marseille, les files d'attente à la pompe sont légion depuis plusieurs jours maintenant. Stéphane Burgat avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous. En effet, 42% des stations ici sont en pénurie sur au moins un carburant. C'est un petit peu mieux, hein, vous le disiez, que la semaine dernière, mais ça reste quand même très, très insuffisant. C'est pourquoi la préfecture de police prolonge et étend la réquisition des pompes à destination des personnels prioritaires. La liste est très longue, avocats, transport alimentaire ou encore les soignants, les plus nombreux d'ailleurs à venir se servir ici, à l'image de Céline.
Ah ben oui, surtout que j'étais à deux doigts de m'arrêter, de ne plus avoir d'essence. Il fallait absolument de l'essence pour aller travailler. Je suis infirmière.
Ça vous soulage d'avoir ces pompes prioritaires donc pour vous ?
Honnêtement, oui. Parce que j'avais peur que en fait, ça soit trop surchargé. Donc tant mieux, heureusement. Parce que sinon, je sais pas comment on ferait. Hein.
Alors on en parlait la semaine dernière dans Europe 1 Midi. Un policier nous expliquait la fraude, les passages en force à ces pompes prioritaires d'automobilistes qui n'avaient rien à y faire. Et bien là au moins les choses sont claires. Maintenant, les forces de l'ordre font le tri à l'entrée de la station, nous explique cette chirurgienne digestive qui a dû montrer son caducée pour passer.
Et je pense que malheureusement, s'il n'y avait pas les policiers, il y a tellement de gens qui doivent aller travailler, qui n'ont pas le choix non plus, surtout par les temps qui courent, où on n'est pas forcément tous dans des bonnes situations. Toujours des gens qui essayent de resquiller, mais je comprends qu'il y ait beaucoup de gens aussi qui soient dans la difficulté et qui ne trouvent pas d'autre solution que de tricher ou de forcer.
Voilà, et les perspectives d'approvisionnement en carburant restent incertaines pour le département. Selon la préfecture de police, en effet, une opération de maintenance a immobilisé le dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer une bonne partie du week-end. Et le mouvement de grève dans les raffineries reste très suivi.
Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 à Marseille, en direct avec nous. Merci beaucoup Stéphane. Eux sont moins habitués au mouvement de grève, ce sont les Allemands. Pourtant, un mouvement social de grande ampleur débute aujourd'hui outre-Rhin. Les syndicats du rail, des aéroports, des sociétés d'autoroutes et du fret maritime sont mobilisés pour réclamer des hausses de salaire. Et puis notez qu'en Israël, la situation est très tendue. La principale centrale syndicale israélienne appelle à la grève générale immédiate. C'est un projet de réforme de la justice porté par le gouvernement de Benjamin Netanyahou Facebook qui cristallise les tensions. La nuit dernière, le limogeage du ministre de la Défense a fait descendre des milliers de manifestants dans les rues de Tel Aviv. Ce matin, c'est le président israélien Isaac Herzog qui demande l'arrêt immédiat du travail législatif sur ce texte très controversé. Midi 10, restez bien avec nous. Dans un instant, on va changer de sujet. On va parler d'un cancer du sein reconnu comme maladie professionnelle. Vous avez bien entendu, cancer du sein reconnu comme maladie professionnelle. On va tout vous expliquer juste après la petite pause publicitaire. A tout de suite sur Europe 1 dans Europe 1 Midi.
Europe 1 Midi, Romain Desarbres.
Il est midi 12, merci d'être avec nous sur Europe 1. Cancer du sein donc a été reconnu comme maladie professionnelle. C'est une première en France. Une infirmière de l'hôpital de Sarreguemines en Moselle a exercé pendant 28 ans en horaire de nuit. Et Nina Droff, bonjour Nina.
Bonjour.
La justice a considéré il y a quelques semaines que ce rythme de travail était responsable de la maladie de cette soignante.
Oui, tout à fait. Cette ancienne infirmière a travaillé 873 nuits complètes entre 1982 et 2009 et le médecin expert l'a écrit noir sur blanc. Il s'agit d'un facteur direct dans le développement de son cancer du sein. Plusieurs études de l'INSERM et de l'ANSES avaient déjà relevé un risque de cancer du sein accru pour les femmes ayant travaillé régulièrement de nuit avant la ménopause, probablement à cause du dérèglement de l'horloge interne, mais il n'y avait encore jamais eu de reconnaissance officielle. Il s'agit donc d'une victoire pour cette ancienne infirmière après un an de combat juridique et administratif, mais aussi pour les autres personnes dans des situations similaires, car ce cas pourrait servir de jurisprudence. Plusieurs tribunaux français ont d'ailleurs déjà été saisis pour des cas identiques. La CFDT Minier de Lorraine, très investie sur ce sujet, espère que cette reconnaissance remettra en question l'organisation du travail de nuit dans certains milieux et demande une inscription définitive du cancer du sein au registre des maladies professionnelles.
Nina Droff, merci beaucoup Nina. On va parler football. L'équipe de France de foot joue ce soir en Irlande. Deuxième match des qualifications pour l'Euro 2024 et deuxième match en tant que capitaine pour Kylian Mbappé. La grande première pour la star du PSG, c'était vendredi contre les Pays-Bas. Belle victoire. Hein, je ne sais pas si vous l'avez regardé. 4-0 à l'arrivée. Cyril de la Morinerie en direct avec nous depuis Dublin. Bonjour Cyril.
Hello everybody,
hello Cyril. Vous notez l'accent, hein, vous notez l'accent. Forcément, on espère voir une performance aussi aboutie qu'il y a trois jours, Cyril. Hein. Ah, Cyril de la Morinerie, j'ai entendu un bruit bizarre, effectivement. On l'a perdu, bah, ça arrive, on a perdu Cyril de la Morinerie. Moi, ce que je vous propose, c'est que... Ah, on a retrouvé Cyril, ça y est, Cyril de la Morinerie avec nous. On espère voir une performance aussi aboutie que vendredi soir, hein, ce soir.
Oui, d'abord, ce que je peux vous dire, c'est que la météo, elle est clémente. Ici, on a une pluie irlandaise qui était très bonne pour la pelouse, parce qu'elle est parfaite, cette pelouse de l'Aviva Stadium. Aujourd'hui, plein soleil dans le centre de Dublin, mais attention, ce ne sera pas une promenade bucolique, hein, sur l'île d'Émeraude. L'Irlande espère faire coup double après avoir battu le 15 de France en rugby il y a à peu près un mois. Eh bien, les Irlandais veulent battre les Français de Kylian Mbappé. Alors, c'est vrai que sur le papier, c'est une équipe moins forte, elle est 42e nation mondiale. La dernière fois qu'elle avait participé à l'Euro, c'était en 2016. Elle avait été éliminée au premier tour. Mais Kylian Mbappé, qui est venu en conférence de presse, ce nouveau capitaine, est très prudent. Attention, ce sera un grand match. Ce ne sera pas facile.
Il ne faut vraiment pas penser que voilà, on va avoir le ballon tranquillement et on va pouvoir déployer notre jeu et attendre que ça se passe en attendant que la différence se fasse. Il va vraiment falloir qu'on soit offensif, qu'on soit agressif dans le bon sens du terme. Et je pense que voilà, ça va être un bon match de football. J'espère qu'on sortira victorieux de cette bataille.
Et d'ailleurs, le sélectionneur irlandais, figurez-vous, a montré des images de la fameuse main de Thierry Henry. C'était pour le match de barrage de la Coupe du Monde 2010. Il y avait une main très polémique, Thierry Henry, qui avait amené au but de William Gallas. C'est pour galvaniser son équipe. Il a donc montré ces images qui font partie de l'histoire. Les Bleus sont tous opérationnels. Olivier Giroud devrait être titularisé ce soir pour, pourquoi pas, marquer un 54e but en équipe de France. Colomani devrait être sur le côté. Et puis, on attend près de 3000 supporters français. Ce sera le quatrième contingent le plus important de l'histoire de l'équipe de France en déplacement.
Cyril de la Morinerie, merci beaucoup Cyril et vous serez au commentaire hein, de ce match Irlande-France, coup d'envoi 20h45. Ce sera à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. La bourse, rendez-vous bourse avec Didier Hamot de boursier.com. Bonjour Didier.
Bonjour Romain.
Qu'est-ce que ça donne à la Bourse de Paris aujourd'hui ?
Ça se passe bien, plutôt bien. Plus 1%, le CAC 40 remonte, 7090 points, le secteur bancaire se stabilise. alors que les autorités allemandes ont plutôt rassuré sur le devenir de la Deutsche Bank qui inquiétait les investisseurs la semaine passée. En Bourse de Paris, la Société Générale est stable. BNP Paribas, plus 1,5%. Le Crédit Agricole, plus 0,5% à 10 euros. Et puis, après le stress bancaire des dernières semaines, les marchés ne voient plus vraiment les taux d'intérêt monter. En Bourse, cela donne des rebonds un peu partout en Europe. Le DAX à Francfort gagne 1%. La Bourse de Bruxelles, plus 1,1%. Madrid, plus 0,8%. Le CAC 40, donc en hausse d'1%. 1,1% exactement. 7090 points.
Didier Hamaud de Boursier.com. Merci Didier.